Eh bien, le mercredi sur Présence, c'est cinéma à 19h avec N'oubliez pas l'ouvreuse. Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse Louis-Marie et Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Comment allez-vous Laurent?
Ça va très bien avec ce temps radieux.
Bah oui, hein. Ça va, ça vient, c'est surprenant, mais néanmoins, ça donne malgré tout envie d'aller au cinéma.
Bien sûr.
Ah, ou oui. De rester confortablement installé dans son canapé.
Ah, oui.
C'est votre passe-temps préféré, Laurent. Combien allez-vous nous conseiller de films ce soir?
Oui, parce qu'on avait presque commencé à hiberner, mais
bah, oui.
On est sorti d'hibernation. Je ne sais plus comment faire.
Mais vous avez rangé la couette pour le moment.
Oui, oui, en attendant de la ressortir. Ouais. Alors, ceux qui ne peuvent pas sortir ou qui ne veulent pas sortir, il y a un petit conseil ciné à la télé. Et donc, j'ai sélectionné 4 films pour le cinéma à la télévision cette semaine. Et on peut aussi éteindre nos écrans, et à ce moment-là, il y a un conseil de lecture.
Ah, on aime quand vous nous conseillez un livre. On aime quand vous nous forcez à lire.
Forcément, non, mais celui-là, il est bien sympa en plus.
Bon, mais tant mieux. Ouais. On attend ça avec impatience. Vous teasez remarquablement bien, comme le fait également notre ami Guillaume Sidom. Mais lui, alors, c'est la vedette ici. Toutes ses admiratrices lui font la haie d'honneur chaque fois qu'il arrive. C'est immanquable, le mercredi. Vous n'entendez pas les cris parce que on les repousse quand même. Le service d'ordre de la radio les écarte pour que Guillaume Sidom puisse rentrer. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir, quelle transition, quelle introduction. Merci Louis-Marie.
Alors, dites-nous tout, vous qui êtes notre mécanographe alors, du cinéma, retour de manivelle.
Ce soir, un feu d'artifice de 97 minutes, j'ai compté, c'est précis, les rues de New York en tenue de gala, dans un somptueux scope en noir et blanc, le tout accompagné d'une touche de rhapsodie en bleu, et des places sont à gagner en partenariat avec l'ouvreuse et la Cinémathèque de Toulouse.
Mais dites-moi, vous aussi, vous êtes un as du teaser. Moi, je vais essayer de faire aussi bien pour notre homme de loi des séries, au tribunal des séries, avec Grégory Com. C'est moi qui le fais. Donc, le teaser, là, il va vous parler non pas d'une série, mais vous savez qu'il a une affection, une passion même, pour tout ce qui vient de l'Asie, en particulier du Japon. Il n'était pas surprenant qu'il se penche sur Demon Slayer, le film qui cartonne en ce moment, qui pulvérise les records au box-office. C'est normal que notre spécialiste se penche au chevet de cette œuvre. Demon Slayer, c'est pour tout à l'heure, dans le tribunal des séries. Alors, qu'y a-t-il ce soir, en plus de toutes vos belles chroniques, messieurs, dans le panier de l'ouvreuse, eh bien, l'ouvreuse scrutera l'affiche avec vous, Laurent Martin. Nous aurons une idée de tous les nouveaux films qui sont à l'affiche depuis aujourd'hui dans un cinéma près de chez vous. Et puis, il y aura les reprises sur le grand écran avant les vôtres, Laurent, dont on vient de parler. Et puis, évidemment, en fin d'émission, il y a des coups de cœur parce qu'on a toujours des films, des expositions, des cycles. Il y en a, des cycles. Et puis, des manifestations, des festivals qu'on a envie que vous alliez voir de notre part. Et puis, last but not least, on l'a laissé pour la fin, nous avons un invité ce soir pour un festival qui sort de l'ordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire, dans son idée et dans sa conception et même dans sa localisation géographique. Avec nous, Vincent Matex. Vincent, si j'ai bien noté, vous êtes exploitant du cinéma Le Lumière à l'Union. Bonsoir Vincent.
Oui, bonsoir à tous. Bah oui, tout à fait. Je suis exploitant du cinéma Le Lumière à l'Union et je suis là ce soir pour vous parler du festival Polaris, un festival qu'on organise du 8 au 14 octobre sur 3 cinémas de la très très proche banlieue de Toulouse, Le Lumière à l'Union, Le Méliès à Castelmouroux et Le Ventura à Saint-Geniès-de-Bellevue.
C'est ça qui fait l'originalité, pour commencer. Il y en a d'autres. Originalité dans votre festival, mais là déjà s'entendre des salles de cinéma de communes avoisinantes qui s'entendent pour faire un festival. C'est rare pour être souligné.
Oui, en fait, on s'entend déjà tout le restant de l'année, puisqu'on fonctionne sous l'association qui s'appelle l'Étoile du Nord. Et c'est à trois qu'on fait la programmation et la diffusion de ces films. Ça permet à nos spectateurs, quand ils ont raté un film à l'Union, d'aller le voir à Castelmoroux ou à Saint-Geniès quelques jours après. Donc voilà, c'est trois cinémas associatifs, trois cinémas gérés par des bénévoles. Il y en a juste un où il y a un salarié, c'est celui de l'Union. Donc on fonctionne avec une trentaine de bénévoles sur chacun des cinémas.
Voilà. Et Polaris, pourquoi le titre?
Alors Polaris, parce que je vous ai dit, l'association s'appelle l'Étoile du Nord, mais pas l'étoile au sens l'étoile dans le ciel, l'étoile au sens l'étoile du cinéma. Donc l'Étoile du Nord, le nom scientifique c'est Polaris, quand on parle de l'étoile qui est dans le ciel. Donc on a gardé ce nom-là. L'année dernière, le festival s'appelait Polaris parce que il y avait à la fois l'étoile polaire, il y avait à la fois des films policiers et des thrillers uniquement. Cette année, on a été beaucoup plus large sur le choix. Le festival dure plus longtemps, il dure une semaine ou trois jours. Et puis on fait un festival uniquement d'avant-première. Voilà. Donc on aura 25 avant-premières sur les trois cinémas, répartis sur un petit peu plus de 40 séances.
Ça fait un beau menu tout ça, c'est très appétissant. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, vous, pour monter une telle programmation?
Les difficultés, c'est de contacter les distributeurs bien en amont, donc ça nous a demandé quand même beaucoup de travail. Les équipes de bénévoles des trois cinémas vont sur pas mal de festivals. On a eu la chance de pouvoir aller à Cannes, où on a pris contact notamment avec des distributeurs ou des acteurs ou des réalisateurs. Ça nous a permis d'amorcer quelque chose pour le festival qu'on a pu monter. Effectivement, c'est beaucoup de travail, mais je tiens à souligner quand même la bienveillance et des distributeurs qui nous ont accordé ces avant-premières. On ne pensait pas en avoir autant. Même si ça nous a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. En échange, ils ont vraiment joué le jeu en nous accordant des films en avant-première. Donc, soit certains qui vont sortir quelques semaines seulement après le festival, soit certains qui vont sortir carrément en 2026. C'est plutôt chouette, oui.
J'ai les chiffres sous les yeux. 25 longs métrages en avant-première, c'est une belle performance.
Oui, on est vraiment content, surtout que c'est vraiment éclectique. On a à la fois du film d'animation, avec notamment Marcel et Monsieur Pagnol qu'on va passer aux lumières. On a Heidi et le Lynx. On a Olivia. On a quelques films d'animation. On a des films historiques. Avec les deux procureurs, la disparition de Joseph Mengele. On a des comédies, on a des drames, on a pas mal de films en VO aussi. Donc je pense que vraiment tout le public pourra trouver ce qui l'intéresse. Voilà.
Et tout au long de l'année, on va revenir sur Polaris bien sûr, mais tout au long de l'année, à l'Union, aux Lumières, mais dans les deux autres salles dont vous parlez, à Castelmoroux et Saint-Geniès-Bellevue, au Méliès et au Ventura, il y a une démarche pour faire venir le public et pour le faire réfléchir ou le faire penser aussi, ou débattre, tout simplement, à propos d'un film.
Oui, tout à fait. On essaye de, je vous dis, d'avoir une programmation éclectique. La même semaine, vous pouvez voir chez nous un film iranien sous-titré, un blockbuster américain et un film d'animation français. Parce que moi, je crois qu'il faut pas faire du mépris de classe ou d'essayer de mettre les gens dans des cases. Je crois qu'il y a une interpénétration possible entre les publics. On est très attaché à ça. Et effectivement, il y a des séances que nous on appelle ciné-doc ou ciné-débat, où on permet au public d'échanger ensuite par rapport à un sujet de société. Quelquefois on a la chance de pouvoir faire venir un réalisateur ou un acteur. Ça, c'est un petit peu plus rare pour les petits cinémas comme nous, mais quand on y arrive, c'est toujours intéressant, quoi.
Mais justement, vous aviez comme invité, alors c'est quelque chose, une programmation qu'on peut retrouver dans différents cinémas de la région et même à un niveau encore plus large que la région, à savoir Unipop, et vous avez pu avoir Marie-Hélène Roux pour Muganga. Et donc, parler de Muganga. Muganga, ce film qui met en scène Denis Mukwege et Guy Cadière. Parce que le parti pris de Marie-Hélène Roux, c'est d'avoir raconté l'histoire de ce médecin africain. Quand je dis assez, il est extraordinaire. il est paré de prix, notamment le prix Nobel de la paix. C'est lui qui soigne ces femmes violées au Congo. Il en est un nombre extraordinaire. Et il a rencontré Guy Kadir, qui est un chirurgien belge qui a mis au point la fameuse laparoscopie et qui permet de faire des interventions non évasives. On n'est plus obligé d'ouvrir le patient, en tout cas les patientes, pour arriver à les soigner. Ce qui est remarquable, d'autant plus remarquable pour ces femmes qui ont été meurtries, et c'est le moins qu'on puisse dire. Alors les meurtrir un peu plus, même si c'est pour les soigner, c'est difficile. Et avec cette technique, eh bien, ils font des miracles. C'est le parti pris, donc, de Marie-Hélène Roux, c'est d'avoir centré non pas l'histoire sur Denis Mukwege, mais sur l'amitié de ces deux hommes. Cette amitié qui est portée par deux comédiens formidables, Isaac de Bankole et Vincent McCain. Bankole, Denis Mukwege, McCain, c'est Kadir, le Belge. Et voilà ce qu'elle dit, Marie-Hélène Roux, de ces deux acteurs et comment elle les a trouvés.
J'avais Isaac de Bankole parce que d'abord le héros est le docteur Mukwege, donc il fallait quelqu'un qui ait cette prestance, il a une élégance, il a quelque chose de solennel. Après, il a travaillé énormément pour avoir ce phrasé, même en swahili, il a été coaché, donc j'avais d'abord lui, et ensuite il fallait, pour que ce duo marche sur un contraste, qui soit fort, qui en fasse quelqu'un qui soit aussi talentueux, mais avec une fantaisie, avec quelque chose d'instinctif, même dans le corps. Il y en a un qui est très droit et l'autre qui arrive, qui bouge, c'est tout ça. Et Vincent McCain a tout ça. Donc en fait, ils ont une forme d'opposition, même si elle, et pour moi c'était essentiel pour qu'ils se rejoignent, et leur différence, même au niveau du travail, même au niveau de comment ils appréhendent un rôle, ben ça pour moi, pour le film, ça m'a servi.
C'est Alexandre Dudermel qui a composé la musique du film de Marie-Hélène Roux, Muganga, Muganga, qui signifie « celui qui soigne ». Ce qui explique le sous-titre du film qu'on peut voir aussi sur les affiches. Le film est remarquable. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est que elle est particulièrement admirative du travail de ces deux hommes, de cet homme en particulier, hors du commun. Mais néanmoins, il y a ce quelque chose qui fait que on a affaire à un film fort et poignant. En tout cas, voilà, c'était un clin d'œil, il fallait le faire à Muganga. Pourquoi ? Parce que Marie-Hélène Roux est passée un petit peu après la sortie du film, puisque le film est sur les écrans depuis mercredi dernier, et qu'elle était de passage à Toulouse le surlendemain. Il était bon de la rencontrer et de parler avec elle de son film. Si nous changions d'ambiance tout de suite, allez, installez-vous. Vous savez que, comme le veut la coutume, l'habitude, n'oubliez pas, l'ouvreuse commence par la projection d'un film. Allez, n'oubliez pas de regarder le bas de votre poste de réception, qu'il soit numérique ou analogique. Le bas, pourquoi ? Bah, parce qu'il y a les sous-titres, évidemment.
He adored New York City. He idolized it all out of proportion. He romanticized it all out of proportion. Better. To him, no matter what the season was, this was still a town that existed in black and white and pulsated to the great tunes of George Gershwin. Now let me start this over. Chapter one.
Wait. Voilà un auteur qui n'est pas tout à fait satisfait des premières lignes du livre qu'il est en train d'écrire et qu'il lit en regardant la ville qu'il aime par-dessus tout, New York. Et New York, on la découvre au début du film de façon admirable. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit au tout début. Il adorait New York. Eh, chapter one. Et il recommence. Il adorait New York. Mais qui est cet homme, Guillaume Sidom ?
On va le savoir pour le film Manhattan, film signé Woody Allen de 1979 avec Woody Allen lui-même, Diane Keaton, Michael Murphy, l'excellente Meryl Streep. Pourquoi il faut voir et revoir ce film pour le merveilleux panorama de New York, tout vertical et imposant, cette ville debout en noir et blanc classieux, ses gratte-ciels, ses perspectives adoucies par le délicieux Rhapsody in Blue de Gershwin que vous venez d'écouter et que vous aurez le plaisir de réécouter à la fin de ma chronique. L'œuvre date de 1924 et Woody Allen l'utilise ici pour la magistrale ouverture du film 55 ans plus tard, version de l'orchestre philharmonique de New York, sublime. Il faut dire qu'il s'y connaît, notre cher Woody. C'est en effet un grand passionné de jazz et de classique. Nous ressentons vraiment une osmose entre les deux artistes. Pourquoi voir ce film pour peut-être aussi les conversations pleines d'allant, de culture, de prétention, des drôleries qu'entretiennent les personnages, le noir et blanc aussi velouté, chaleureux, rendant en complément du cinémascope la moindre image mythique et plus grande que nature, peut-être, sûrement, mais c'est aussi la force de ce film unique, celle d'avoir su peut-être se transformer en une radiographie des angoisses contemporaines qui, elles, n'ont pris aucune ride. Alors, peut-on aimer sans sexe, être belle, est-ce nécessairement visible de l'extérieur, peut-on changer? Doit-on craindre nos ex? Qu'est-ce qui nous rend heureux, finalement, heureuses, en particulier en couple? L'insatisfaction est-elle une fatalité? Les questions semblent peut-être simples, et pourtant, du Woody Allen de 1979 jusqu'en 2025, elles sont toujours aussi pertinentes.
Est-ce qu'on a les réponses à ces questions en découvrant l'histoire du MC Dom?
On va le savoir, Isaac Davis, auteur de sketch pour la télévision, a bien du mal donc avec l'écriture, vous l'avez dit, hein, Louis-Marie, en introduction, de ce qui doit devenir son premier roman, tourmenté peut-être par son manque d'inspiration. L'auteur se remémore son passé. Il repense surtout à Jill, son ex-femme devenue lesbienne, qui menace, elle, de publier un livre relatant dans ses moindres détails leur relation passée. Isaac vit maintenant avec Tracy, une jeune fille de 17 ans, dont il tente d'être à la fois le mentor et l'amant. Et tout va se compliquer quand il se lance dans une relation éphémère avec Marie, la maîtresse de Yale, son meilleur ami. Isaac est bientôt rongé par la culpabilité, bien sûr. Il y a aussi dans ce film toute la bande d'interprètes, tous et toutes formidables, Woody lui-même, mais aussi Marielle Hemingway, Meryl Streep ou Diane Keaton, réunis par le cinéaste pour animer les rues new-yorkaises. Ces plans, encore de dos ou de profil, dans lesquels les ombres des personnages se découpent, comme pour mieux rappeler qu'une silhouette en vaut bien une autre et que l'être humain n'aura jamais véritablement fini de chercher celle qui lui correspond. Encore ces images aussi amoureuses d'un New York où chaque plan, même intérieur, a été tourné, abritant avec autant d'indifférence que de majesté les amours clandestines et les mariages routiniers. Je cite Woody Allen. Malgré les apparences, c'est un film triste. C'est l'histoire de quelqu'un qui voit sa ville comme elle n'existe plus depuis des années sur une musique qui a l'âge de son rêve et dans le style de film qui est populaire à l'époque. Du noir, donc du blanc, du jazz aussi, pas pour la forme, mais dans le fond, tout est dit. Oui, il y a tout ça dans ce film, mais il y a aussi l'essentiel, le charme, l'intelligence verbomotrice, l'amour de la culture que chaque réplique, chaque plan distille avec une spontanéité, un naturel irrésistible et en un mot comme un mille. Manhattan est bel et bien un classique et le voir ou le revoir ne peut que vous le confirmer. Peut-être le film le plus emblématique de Woody Allen et sûrement celui que nous retiendrons le plus sur sa ville fétiche. Un superbe hymne à New York en cinémascope et en noir et blanc. Manhattan, amour, amitié, désir, peur de vieillir, peur de mourir. Et deux ans plus tôt, avec Annie Hall, Woody Allen prouve que son talent ne se limite pas au rire. En 1979, Manhattan confirme sa place parmi les plus grands. Il reste son plus grand chef-d'œuvre, indémodable comme son affiche. Manhattan, deux silhouettes sur un banc le long de l'East River. Et tant pis si ce banc, justement, du Queensboro Bridge n'a jamais existé. À retrouver donc ce jeudi 2 octobre, 19h30, au Pathé Wilson. Séance de rattrapage mardi 8 novembre, toujours à 19h30, dans le cadre du cycle Galaxy Jaoui jusqu'au 20 novembre prochain, en partenariat avec l'Ouvreuse, Radio Présence et la Cinémathèque de Toulouse. Gagnez vos places pour deux personnes en nous envoyant vos noms et prénoms à cinéma@radioprésence.com. Retrouvez toute la programmation sur la Cinémathèque de Toulouse.com et en Blu-ray et DVD chez MGM Éditions. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon, et surtout, allez au cinéma.
Paul Ouvreuse sur Radio Présence.
Ses blanches brebis. Quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit c'est de rouler dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline.
Eh ben voilà, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline. Pas de bol, hein. Mais pourquoi cette chanson de Joe Dassin ? Eh bien, pour suivre une famille, la famille Girard, qui s'en va pour manifester à Paris. Ils viennent de Saint-Dizier. Ils sont cinq dans la voiture. Il y a la maman, le frère aîné, le frangin plus jeune, la sœur et un ami du frangin plus jeune. Et malheureusement, ça va mal se passer dans cette manifestation gilet jaune pour Guillaume, ce jeune homme qui va voir son visage défoncé par un projectile tiré par les forces de police. Et c'est le sujet de Dossier 137 de Dominique Moll. Et oui, on voit le moment où cette famille est joyeuse et s'en va manifester tout en pensant aussi qu'ils feront un tour dans Paris, tout simplement. On vient de Saint-Dizier, on sait même pas où c'est Saint-Dizier. Et on va visiter la ville. Et puis, voilà. On manifeste aussi.
C'est en Ariège, Saint-Dizier.
Saint-Dizier, pas du tout.
Ah, Saint-Dizier, pardon.
Saint-Dizier.
J'avais entendu Saint-Dizier.
De l'Ariège, la petite balade en voiture, ça fait un peu long.
Ça fait
3 heures de voiture, quand même, de bagnole. Voilà. Alors, dossier 137, tout ça pour dire que grâce à vous, on va pouvoir le découvrir, Vincent Matex. Vous l'avez dans votre programmation. Et voilà donc un polar qui renoue avec la programmation de votre festival de l'année dernière.
Oui, tout à fait. Donc, Dossier 137, un super film de Dominique Moll que j'ai eu la chance de voir il y a un petit moment, qu'on va passer sur les trois cinémas cette fois-ci. Donc, il va passer au Ventura à Saint-Geniès le samedi à 21h, 20h30 aux Lumières chez nous le dimanche, et donc au Méliès 21h le lundi 13. Ouais, c'est un super film avec Léa Drucker, comme d'habitude, qui joue très juste.
Puisque après, on en reparlera quand le film sortira, mais après avoir passé, au grill, la police judiciaire dans la nuit du 12, voilà que Dominique Moll, s'intéresse à l'IGPN, la police des polices, puisqu'on suit l'enquête d'une commandante de l'IGPN qui va enquêter pour savoir ce qui s'est passé, ce qui a provoqué cette blessure terrible à ce jeune homme. Polar, certes, mais aussi sociologie.
Film social aussi. Ouais.
Social dans la teneur. Alors, polar, historique, vous l'avez dit, vous l'avez abordé, Vincent Matex, il y a une partie historique aussi dans votre festival, je pense à Deux procureurs ou encore la disparition de Joseph Mengele. Donc, en fait, il vous fallait des avant-premières, mais vous avez su aussi cheminer et arriver à trouver des sujets assez différents et proches de ce qui vous intéresse, quoi, à vous.
Oui, c'est ça, on est attaché, je vous ai dit, à ce qu'il y ait une programmation éclectique. Donc, Les Deux procureurs, c'est un film qui traite des crimes du stalinisme, donc qui se passe en Union soviétique sur la période trouble. Et on aura la chance pour ce film d'accueillir après le film, donc on diffuse le mercredi, c'est notre premier film Lumière. Après le film, il y aura donc un débat avec Anthony Cambron, qui est un professeur agrégé d'histoire de la fac de Toulouse, qui va nous parler des crimes du stalinisme. Et puis l'autre film historique qu'on passe chez nous, mais qui passe aussi au Ventura, c'est sur la disparition de Joseph Mengele. Et là, il y aura deux animations. Une animation au Ventura, avec un professeur d'histoire, et une animation aux Lumières le vendredi. Attendez, je retrouve la date pour pas me tromper.
Vendredi 10 à 20h aux Lumières.
Voilà, avec Maurice Lugassi, qui descendra de Paris exceptionnellement pour animer le débat, et qui est le correspondant régional du mémorial de la Shoah. Voilà.
Eh ben on va regarder encore et vous nous donnerez le nom des invités qui viendront justement participer à cette fête qui est Polaris, et je le rappelle, du 8 octobre, de mercredi prochain, ouais, jusqu'au mardi 14, une semaine entière. Pour le moment, l'ouvreuse va scruter l'affiche de la semaine avec vous, Laurent Martin. Qu'est-ce qui a retenu votre attention ?
Oh ben, un simple accident, bien sûr, de Jafar Panahi. Ah ben tiens, Palme d'Oracan. On l'a entendu celui-là, qui sort aujourd'hui 1er octobre. Iran de nos jours, un homme croise par hasard celui qu'il croit être son ancien tortionnaire. Mais face à ce père de famille qui nie farouchement avoir été son bro, le doute s'installe. Jafar Panahi, 65 ans, était bien sur les marches rouges en mai dernier, lunettes noires, sourire aux lèvres, pour présenter son dernier né. Un simple accident et y recevoir les suprêmes lauriers, à savoir la Palme d'Or. Le cinéaste iranien empêché de circuler et d'exercer son art par les autorités iraniennes qui jouent avec ses nerfs depuis 2009 a toujours affiché une ténacité incroyable. Alors le voir là physiquement, acclamé par une foule cinéphile reconnaissante envers son œuvre, qui est quand même l'une des plus importantes du cinéma moderne, donne tout son sens à un événement majeur comme le Festival de Cannes, un endroit où plus qu'ailleurs le symbole à valeur de manifeste artistique et politique. L'année dernière, c'était son collègue et ami Mohammad Rasoulov qui décidait de quitter, lui, définitivement son pays pour défendre ses graines du figuier sauvage. Un film à voir, si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment très bon aussi. Disciple d'Abbas Kiarostami, dont il fut l'assistant réalisateur, Jafar Panahi a gardé du maître cet art précis de la mise en scène visant à interroger en permanence les faux-semblants du réel. Alors bien sûr, la clandestinité l'oblige à épurer au maximum sa mise en scène et trouver le dispositif le plus léger possible pour s'exprimer. Cela produit une pureté stricte du regard. Et chez l'Iranien, les personnages se déplacent quasi exclusivement en voiture, à la fois donc dedans et on est en dehors du monde aussi, protégé d'une exposition forcément dangereuse. Un simple accident commence donc logiquement dans l'habitacle d'une voiture, d'un véhicule. Un couple devant, une enfant agitée à l'arrière, la nuit tout autour et soudain des soubresauts. Quelque chose est passé sous les roues, l'homme sort, le rouge des phares lui donne l'apparence d'un spectre inquiétant. La caméra reste sur son visage. Deux plans à peine et c'est déjà tout un monde qui s'organise, un monde tendu à l'insouciance brisée. C'est donc dans un van que toute une société se reconstitue désormais. Le corps du probable bourreau a été placé dans une boîte en attendant de décider de son sort. Un sort qui tient entre les mains d'une photographe, une mariée et deux hommes au tempérament contraire. Panahi déploie ici un petit théâtre de l'absurde, le classique de Beckett en attendant Godot est nommément cité, capable de tout renverser en une fraction de seconde. On passe aussi au Nouveau Monstre, chef-d'œuvre de la comédie à l'italienne.
Marco Ferreri.
Exactement. La parole, véritable muscle du film et la toute-puissance du cadre, interroge tout à la fois la violence du pouvoir et la façon dont celui-ci oblige ceux et celles qui en sont victimes à trouver la juste réponse. Petite revue de presse sur ce film, j'ai trouvé aucune critique négative, donc il n'y aura que du positif. C'est prenant comme un thriller, politique comme un pamphlet, un chef-d'œuvre selon Bande à part. La Croix a beaucoup aimé aussi. Une œuvre puissante sur le désir de vengeance et une charge virulente contre le régime iranien. Le Figaro a aimé aussi, un film frontal, brutal et littéral. À l'affiche aussi cette semaine, on peut voir Sacré-Cœur. Un documentaire de Steven et Sabrina Gunel. Il y a 350 ans en France, Jésus a fait connaître son cœur brûlant d'amour à Sainte Marguerite Marie, à Paray-le-Monial. Et aujourd'hui, dans le monde entier, la puissance du Sacré-Cœur transforme encore des vies. Un docu-fiction saisissant qui nous plonge au cœur des siècles dans le mystère du Sacré-Cœur de Jésus et nous révèle son amour personnel et inconditionnel. Alors, Marie, l'une de nos fidèles auditrices, nous écrit à propos de Sacré-Cœur qu'elle a vu en avant-première au CGR Blagnac. Rappelez-vous, il y avait des places à gagner avec N'oubliez pas l'Ovoise. Je cite Marie, un très bon documentaire qui retrace bien la profondeur et le contexte historique et surtout des témoignages intéressants et très émouvants. Elle insiste sur le très émouvant. Je le conseille aux auditeurs de Radio Présence. Donc voilà, vous suivez le conseil de Marie, vous ne serez pas déçus. J'ajouterai pour votre gouverne que Steven Gunel, vous le connaissez, messieurs, puisque c'est un ancien membre du boys band Alliange.
Oui,
Alliange.
Oui.
Donc Guillaume a tous les disques à la maison.
Oui, bien sûr.
Les posters aussi.
Voilà. Et cet homme-là a eu une révélation et est devenu catholique. Et depuis, il réalise, en compagnie de son épouse Sabrina, des films, des reportages en relation avec sa foi, notamment sur la chaîne KTO. Et puis, pour être complet sur ce film Sacré-Cœur, sachez qu'il y aura une séance par jour, vendredi, dimanche et lundi, dans deux cinémas, au CGR Blagnac et au Kinépolis à Fenouillé. Pour le reste de l'actualité, vous pouvez voir « Moi qui t'aimais » de Diane Curis. Au VO à Muret, on peut voir « Cervantes avant Don Quixote » d'Alejandro Amenábar. On peut voir ça au CGR, le Paris Montauban, au Régent à Saint-Gaudens ou l'American Cosmographe. Le Big Ball Beautiful Journey de Kogonaga avec l'excellente Margot Robbie. On peut voir Avatar, la voix de l'eau, de Jamie Cameron. Messieurs, un petit film d'horreur, Marche ou crève de Francis Lawrence. On peut voir aussi La pleine conscience du bonheur, un voyage avec le Dalai Lama, un documentaire de Barbara Miller et Philippe Delacqui, qu'on peut voir notamment au VO à Muret. Stup, un documentaire sur, sur les stupes, d'Alice Audio et Jean-Robert Vialet, qu'on peut voir à l'ABC Toulouse. À noter qu'à l'ABC, dans le cadre de Cinéma et Droit, lundi 13 octobre à 20h30, une séance sera présentée par Anne-Cécile Crigel, qui est magistrate au tribunal judiciaire de Toulouse. Et pour finir, un petit film d'animation comme d'habitude, ce sera Timioche d'Alex Bain, Andy Martin, qu'on peut voir notamment au Grand Palais à Cahors.
Getting Heavy, c'est Parish Hall qui chante ça. C'était en 1970, mais pourtant, ça apparaît dans le film de Francis Lawrence, Marche ou crève. Lawrence s'est attaqué à quelque chose de délicat avec ce film, puisqu'il adapte un roman de Stephen King, mais un roman particulièrement délicat, justement, à mettre en image. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est l'histoire d'une marche à laquelle sont confrontés une compétition mortelle sans candidat, et tout est dans cette marche harassante et terrible, et les dialogues des personnages. Oh, délicat à découvrir, même si ça reste un peu monotone. En tout cas, il y a cette musique-là, entre autres. Et si nous quittions cette marche terrible pour aller se plonger dans un anime comme les aime notre homme de loi des séries, c'est-à-dire Gregory Comte, et ce film, c'est Demon Slayer.
Je déclare l'audience ouverte.
Cher Louis-Marie, ce soir, on va faire une petite exception et je vais vous parler d'un film d'animation japonais qui n'est autre que Demon Slayer, la grande saga à succès qui est en train de tout casser au niveau du box-office, qui a dépassé Superman, le dernier Superman, les 4 Fantastiques, Mission Impossible. Alors pourquoi un tel phénomène ? Est-ce que l'animation japonaise met en danger les blockbusters américains, comme semble le penser Donald Trump, qui veut mettre des taxes supplémentaires sur ce genre d'œuvre, ou est-ce qu'au final, ça va faire un grand bien à toute l'industrie ? On voit ça de suite. Alors, qu'est-ce que c'est que Demon Slayer ? Demon Slayer, c'est de base un manga, donc une bande dessinée japonaise, qui parle de Tanjiro, je ne vais pas spoiler, hein, je vous garantis no spoil ce soir, qui parle de Tanjiro, qui va avoir un drame dans sa vie, qui va rejoindre la caste des pourfondeurs. C'est une caste secrète de combattants au Japon sous l'ère Teisho, et qui chasse les démons. Alors le pitch semble ultra classique, et de base il l'est, mais c'est le traitement qui est différent. C'est-à-dire qu'on va être sur une œuvre qui est mélancolique. Les pourfondeurs ont tous une histoire tragique, certains des démons ont des histoires tragiques aussi, et au final, on confronte tragédie face à tragédie, et c'est souvent celui qui arrive à surmonter sa peine qui s'en sort. Alors, Derrière, ça a été adapté en série animée. Vous pouvez retrouver toutes les saisons sur Netflix. C'est magnifiquement animé. Pour moi, c'est une des plus belles animations qu'on ait eu à voir. Mais vous allez me dire pourquoi un tel succès? Parce que de la belle animation et ce qu'on appelle du shonen, c'est-à-dire une œuvre pour soi-disant jeunes garçons, mais en fait, c'est pour tout le monde, hein. Avec de tels codes, on en voit tous les ans. Pourquoi là, ça performe? Alors, je vais vous expliquer aussi pourquoi ça performe et pourquoi le film performe encore plus. Le film qui arrive va aider à conclure la série animée. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'avoir vu les saisons pour voir le film, sinon vous n'allez rien comprendre. Clairement, c'est une œuvre qui est faite pour les fans. Et la fin de l'animé se fera sous trois films. Et là, c'est la première partie. Donc déjà, premier point, pourquoi ça marche? Parce qu'il n'y a pas de trahison de sa fanbase. Est-ce que beaucoup de... d'œuvres font malheureusement, c'est de faire une œuvre en disant on va essayer d'agrandir notre fanbase et on va donc diluer les choses et le rendre accessible à un public, à une audience moderne, entre guillemets. Demon Slayer, ils s'en foutent de ça. Ils ont leurs fans et ils ont fait un film pour leurs fans. Et c'est pour ça que ça marche. Ensuite, oui, le film est beau. C'est magnifique. C'est une des plus belles animations que j'ai vues de toute ma vie. On est sur l'animation en 2D, donc en dessin, avec un petit peu de 3D, mais très discrète. Et là, encore une fois, le Japon nous met une claque et assume complètement son style et son patrimoine en disant « nous, c'est le style 2D qui marche ». Donc, film visuellement magnifique. La bande-son est extraordinaire, elle est touchante, elle est intrigante, elle est stressante quand il faut. Le traitement sonore, de façon générale, des batailles est génialissime. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir le film en IMAX. Mais en fait, ce n'est pas tout. Et pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, tout simplement, on revient à des valeurs qui étaient devenues tabous dans l'industrie du cinéma. On revient à la valeur du dépassement de soi, de la camaraderie, du sacrifice, du fait qu'on fait partie, qu'on n'est parfois qu'un petit rouage d'un tout beaucoup plus grand et qu'il faut œuvrer pour l'intérêt général, la rédemption et je dirais l'amitié. Et tout ça, on nous a dit que c'était mal depuis des années. Depuis des années, on a détruit tout ça, on a détruit l'héroïsme, on a détruit le courage. C'est pour ça que l'animation japonaise, elle marche, parce qu'on revient à des valeurs qui font du bien, qui font du bien à notre société, avec tout ce qu'il faut d'humour, avec tout ce qu'il faut d'inclusivité, mais en gardant ces valeurs-là. Et c'est pour ça, c'est ce savant équilibre entre modernité, mes valeurs ancestrales du Japon, qui font que ça fonctionne. Et derrière, évidemment, les scènes d'action sont incroyables. Et pareil, on alterne, c'est un petit peu la recette classique de ces œuvres depuis Naruto, c'est le combat et le flashback et le dénouement. Et la personne qui va réussir à surmonter son passé, qui va se transcender en combat, qui va s'assumer et qui va gagner. Donc, pourquoi je pense que ça va faire du bien à l'industrie? C'est parce que, justement, la Japanimation nous rappelle comment on raconte une histoire, nous rappelle ce qui touche le public, nous rappelle ce qui fait rêver, ce qui nous rend plus grand après avoir vu une œuvre et nous rappelle qu'en fait, le cinéma, quand c'est bien fait, c'est extraordinaire et on vit un bon moment avec plein de personnes autour de nous dans cette fameuse salle de cinéma. Donc, moi, je vous conseille vraiment de voir les saisons de Demon Slayer sur Netflix, d'aller voir le film, si possible en IMAX, ça le mérite, ça va faire du bien et contrairement à ce que dit Donald Trump, ça ne va pas détruire les œuvres, ça doit nous, au contraire, on doit en tirer une leçon pour savoir comment on doit re-raconter à nouveau demain des choses pour que ça fonctionne bien. Je vous remercie.
Eh bien, notre homme de loi des séries a tranché. IMAX plus Demon Slayer égale grand plaisir et belle création. Eh ben, c'est bien tout ça. Kajuhira et Go Shiina ont composé la bande originale du film Demon Slayer.
Je m'appelle Bon. Et vous êtes. Je m'appelle Bond. James Bond.
Et vous êtes sur Présence, Radio Présence.
Si je vous dis Ennio Morricone plus Giuseppe Tornatore, qu'est-ce que vous me répondez?
Cinéma Simon. Paradiso,
ben oui.
Philippe Noiret.
Ah oui. Cinéma Paradiso, effectivement. Et eh bien, on suit, et vous le savez, est-il besoin de rappeler l'histoire? C'est Salvatore. Salvatore Toto, quand il était petit, qui apprend à la fin des années 80 la mort de son vieil ami Alfredo. Vous l'avez dit. Qui est interprété par Philippe Noiret, et eh bien il va se remémorer tout ce qu'a été son enfance et comment il est entré dans le cinéma grâce à lui et comment il est devenu projectionniste et comment il est devenu maintenant réalisateur. Un très beau film, et il faut ne surtout pas rater les dernières images, parce que là, si on n'a pas une boîte de Kleenex, eh bien on est trempé.
Ouais.
Et où est-ce que vous pouvez voir Cinéma Paradiso? Eh ben, c'est grâce à nos amis de Vive le Cinéma à Muret, au VO de Muret. Vous savez, leur séance où on débat après, c'est dimanche 5 octobre à 18h20. Noiret, Perrin, Salvatore Caccio, le Toto, le petit, l'enfant du début, celui qu'on voit le plus. Voilà, un très beau film. Et si je vous mets ça maintenant, vous pensez à qui et à quoi?
Nothing's too good for the man who shot Liberty Valance.
I know nothing's too good for the man who shot Liberty Valance.
Ah, l'homme qui tue à Liberty Valance.
Eh oui, évidemment, c'est dans la galaxie Jaoui que vous pourrez voir ce film proposé par la Cinémathèque qui campe en ce moment au cinéma Pathé Wilson.
Quand la légende dépasse la réalité, on publie la légende.
Eh oui, c'est comme ça que le film finit. Film de John Ford avec John Wayne,
James Stewart.
James Stewart, bien sûr. Et c'est un très grand film, celui-là aussi. Mercredi 8 octobre à 19h30, c'est au cinéma Pathé Wilson, la galaxie Jaoui. Comme vous irez voir aussi dans la galaxie Jaoui un autre film qu'on a beaucoup aimé. Alors attendez que je me mélange. C'est pas la galaxie Jaoui là,
c'est remake
où on peut voir Blow Up Michelangelo Antonioni. Rappelez-vous, le remake, c'est Blow Out
de John Travolta et de Brian De Palma.
Voilà.
Pas de Palma, hein, évidemment.
Oui, non, Brian De Palma, c'est celui de la Cinémathèque.
Voilà, c'est ça.
Celui de la Cinémathèque. Je vois que vous suivez. Qu'y a-t-il d'autre? Ça, c'est les reprises. Alors, le film Blow Up, c'est samedi 4 octobre à 16h, et là, c'est au musée des abattoirs à Toulouse.
L'auditorium des abattoirs, je crois.
Oui, mais enfin, si vous allez au musée, vous trouverez l'auditorium. Ne semez pas le trouble dans nos auditeurs, s'il vous plaît.
Si je peux me permettre,
Chez nos auditeurs.
J'ai préféré Blow Out à Blow Up.
Oh, eh bien, vous copierez là.
Les auditeurs vont nous écrire.
Voilà, envoyez des cartes postales.
On va être content avec vous.
Ouais, non.
Il y aura débat.
Voilà. Déjà, vos admiratrices ne sont pas d'accord, on les entend d'ici.
Ouais.
Continuons notre rapide tour d'horizon des reprises avec ce qui se passe au Cosmo. Au Cosmo, c'est Rétro Cosmo. Et le Rétro Cosmo propose de revenir sur la carrière d'un cinéaste japonais spécialiste du film de sabre, Kenji Misumi. On peut voir la lame diabolique, le sabre tué, Zatoichi, le masseur aveugle. Que du bon dans le genre. Et c'est un réalisateur très particulier que cet homme-là, qui est mort jeune, il avait à peine plus de 50 ans. Et dans une carrière de 20 ans, il a quand même tourné 65 films.
Ah oui.
C'est assez extraordinaire. Et c'est un spécialiste de ce genre de film. Donc, il faut,
il faut pas rater ces films-là. C'est au cinéma American Cosmographe. Le mieux, c'est d'aller se renseigner pour savoir à quel moment vous pourrez voir les films. Voilà pour le cinéma sur le grand écran. Maintenant, sur le petit, c'est avec vous, Laurent.
Le cinéma à la télévision, ça commence dès ce soir sur Arte, 20h55, avec Le Grand Alibi de Pascal Bonizère, avec Miu Miu, Pierre Arditi et Lambert Wilson. L'atmosphère paisible d'un week-end entre amis se transforme en une scène de crime tragique au bord de la piscine d'une villa cossue. En adaptant Agatha Christie, Bonizère signe un jubilatoire et cruel jeu de Cluedo, porté par une distribution impeccable. Jeudi, France 4, 21h, Tony Herman de Marraine Had. Winfried est un sexagénaire excentrique. Il décide de se rendre à Bucarest pour rendre visite à sa fille, avec qui il entretient une relation distante et chargée de non-dits. La réalisatrice, Marraine Had, c'était seulement son troisième long métrage, trouve une voix unique pour radioscoper avec finesse la relation père-fille, même si le film est un peu long, 2h30. Vendredi, français, 21h, on pourra revoir avec plaisir Un taxi pour Tobrouk de Denis de la Patellière avec Lino Ventura et Charles Aznavour. Un commando des forces françaises libres se lance dans une mission audacieuse de sabotage, mais leur opération ne se déroule pas comme prévu. Des dialogues savoureux signés Michel Audiard et de grands numéros d'acteurs pour un beau film humaniste. Dimanche, Arte, 21h, ce sera Prisoners de Denis Villeneuve avec Hugh Jackman et Jack Gyllenhaal. Dans une banlieue paisible de Boston, l'harmonie d'un sexe divin familial est brutalement interrompue par la disparition de deux jeunes filles. Repérée par la planète cinéma en 2010 avec Incendie, qui a notamment reçu l'Oscar du meilleur film étranger, le Canadien Denis Villeneuve, rien à voir avec Jacques Villeneuve, faisait des débuts hollywoodiens fracassants avec ce thriller palpitant. Et puis le conseil de lecture, vous l'attendez tous, ce sera Les plantes font leur cinéma de Katia Astafiev. Alors, quelle plante a tué le héros d'Into the Wild? Les espèces végétales bioluminescentes d'Avatar existent-elles vraiment? Est-il possible de faire pousser des pommes de terre sur Mars comme Matt Damon? Est-ce que Guillaume et Louis-Marie retrouveront un jour des cheveux? Ah non, ça c'est pas dans le livre.
Compliqué.
Ça va être compliqué. L'auteur nous révèle avec humour les pouvoirs réels ou imaginaires de ces végétaux qui, loin d'être des éléments de décor, participent activement aux intrigues des films. Un livre que vous retrouvez aux éditions de Dunod pour 19 euros. Tony Guillaume, je vous l'offre, mais vous me le rendez parce qu'il n'est pas à moi.
Ah bah,
pour le cinéma, la télévision.
Bah, merci quand même. Merci.
Mais vous savez qu'avec un bon agent, en 3 mois, on monte une tournée. Hein.
Alors là, c'est assez... Alors, la partition de ce film est signée Alexandre Desplat, mais là, ce bout de musique qu'on entend aussi dans ce film-là, eh bien, on le doit à Kamal El-Tawil et Yoa El-Moudi. C'est la bande originale du film Le Destin de Youssef Chahine. Et dans quel film apparaît cette musique? Mais dans Les Aigles de la République. Le nouveau film de Tariq Saleh, qui en avant-première sera proposé dans Polaris, n'est-ce pas, Vincent Matex?
Oui, tout à fait. Donc, Les Aigles de la République, le même réalisateur que La Conspiration du Caire, donc un film vraiment passionnant.
Et Le Caire confidentiel aussi, il semblerait que c'est le troisième volet.
Oui,
donc,
tout à fait, c'est ça. Oui. Donc, c'est sur la corruption du pouvoir en Égypte autour du général Sissi. Donc, oui, c'est un film vraiment à voir, qu'on passera donc sur les trois cinémas, donc au Ventura, à Castelmoreau samedi 11, Ventura pardon, à Saint-Genès-de-Bellevue samedi 11 à 17h30, aux Lumières donc à l'Union à 21h le samedi 11 aussi. Oui, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, le film est vraiment vraiment prenant. Ouais.
Peut-être qu'on peut parler des tarifs qui sont quand même incroyablement bas, je vois, des tarifs très avantageux.
Oui, donc on est, ça c'est la politique tarifaire des trois cinémas, donc en plein tarif vous êtes à 6,50, voilà, et avec la carte d'abonné qui correspond à 6 films, vous êtes à 4,50 par séance, sachant que la carte est non nominative, elle est valable un an, vous pouvez venir à plusieurs dessus, la prêter à qui vous voulez, donc effectivement c'est plutôt attractif.
Alors, il y a des invités, bien sûr, vous en avez parlé, des spécialistes qui viennent éclairer les spectateurs par rapport au sujet des films, mais aussi ceux qui les font. Alors qui vous avez, réalisateur, acteur, actrice, auteur?
Donc, l'ouverture du festival, elle se fera au cinéma Le Méliès à Castelmoron, avec la projection du film L'Étranger, donc de François Ozon. Et là, il y aura une masterclass avec Thierry Laurentin, qui est l'ex-directeur des ventes de chez Gaumont, qui est un personnage qui est resté dans le cinéma, même s'il est un petit peu entré maintenant, il continue à écrire des livres et à faire des conférences. Donc il fera une masterclass par rapport à ce film-là. Nous, le lendemain, donc aux Lumières à l'Union, le jeudi 9 octobre, on aura la chance d'avoir Clémentine Autain et Romane Boringer par rapport au film Dites-lui que je l'aime, donc le film écrit par, le film réalisé par Romane Boringer par rapport au, d'après le roman écrit par Clémentine Autain. On aura la chance d'avoir les deux invités au cinéma pour discuter de ça. Et puis il y aura aussi au Méliès le samedi 11 octobre une avant-première avec le film Les Braises, et donc au Méliès 21h le 11 octobre avec Thomas Kruithof, le réalisateur, qui viendra parler de ce film sur les gilets jaunes.
Voilà. Dites-nous un mot sur ce que vous proposez au jeune public.
Alors pour le jeune public, il y a différents films qui sont proposés. On a en dessin animé, on aura Olivia, il y a Jack et Nancy, il y a Thelma, il y a Marcel et Monsieur Pagnol, Heidi et le Lynx des montagnes, et sur plusieurs cinémas, donc à la fois aux Lumières à l'Union, au Ventura à Saint-Geniès et au Méliès à Castelmoreau. Souvent, sur certains films, il y a un dîner offert aux enfants, un goûter, ça sera mieux, offert aux enfants dans l'après-midi après le film. Voilà.
Et alors, du 8 octobre jusqu'au 14 octobre, il faut prendre convenablement les bonnes directions, celles...
Oui, donc soit celle de Saint-Geniès, Castelmoreau ou l'Union. Vous pouvez aller sur le site de Polaris, festival-polaris.fr, et vous aurez toute la programmation avec les films, les résumés et les horaires qui passeront sur chacun de ces cinémas, sachant qu'il y aura des food trucks sur ces trois cinémas qui vous permettront d'enchaîner les films sans difficulté. Voilà.
Dites-nous, allez, il reste une minute, est-ce que vous avez un coup de cœur? Vous, Vincent Mattex, en tant que cinéphile et professionnel, puisque vous gérez un cinéma, vous êtes exploitant.
Alors, oui, moi j'ai un coup de cœur pour le film Dites-lui que je l'aime de Romane Boringer, que j'ai eu la chance de voir à Cannes. Le sujet est quand même assez compliqué, puisque c'est sur l'abandon d'une maman par rapport à son enfant, tant pour Clémentine Autain que pour Romane Boringer. Et c'est un film qui quand même se montre sensible, sans être mièvre ou pathos. Il y a quand même des moments de... Il y a des grands moments de tendresse, et puis il y a aussi des moments où on arrive quand même à rire dans ce film. Donc c'est vraiment une prouesse, je trouve, pour Romane Boringer. Après, il y a d'autres films qui sont aussi très intéressants. Promis le ciel, le film d'Aïssa Maïga, qui est tourné au Sénégal. Et puis on a des comédies qui, à mon avis, vont faire un carton à la rentrée, là, avec La femme la plus riche du monde, avec une très très belle composition d'Isabelle Huppert dans le rôle de Liliane Bettencourt et Laurent Lafitte, comme d'habitude, exécrable,
en
méchant, dans le rôle de François-Marie Bagné, là, le photographe. Voilà.
Abject comme il se doit. Vincent Mattex, c'est merci d'être venu jusqu'ici pour nous parler de ce festival hors du commun, Polaris, la deuxième édition, dont on ne peut souhaiter que tout se passe bien et qu'on en découvre une troisième. Mais commençons par la deuxième déjà, et nous irons à l'Union, à Saint-Geniès-Bellevue et à Castelmoreau.
Ben, je vous remercie de nous avoir invités, et puis ben, je vous souhaite maintenant, vous aussi, une belle émission, puis à l'année prochaine pour le troisième festival.
Ah ben, donnez-nous de vos nouvelles.
Avec plaisir, merci.
Sur la musique signée Jérémy Fritz pour le film de Francis Lawrence Marchoux Crève, messieurs, quels sont vos coups de cœur?
Les coups de cœur, ce sera Un simple accident de Jafar Panahi, Stuple documentaire et le festival Polaris du 8 au 14 octobre dans trois cinémas.
Un simple accident, le cycle Polaris du mercredi 8 au mardi 14 octobre. Toute la programmation sur festival-polaris.fr. Et puis Ciné Espagna qui commence lundi 6 octobre. Retrouvez sur radioprésence.com l'excellent podcast Mercredi Cinéma avec Alba Paz, la coordinatrice du festival.
La co-directrice.
Co-directrice.
Du festival. Avec Loïc Diasronda qui est le co-directeur. Donc il n'y a qu'une co-directrice et qu'un co-directeur. Bon, allez, pour moi ce sera Un simple accident de Jafar Panahi. Et puis le film de notre ami Claude Sicre, Nouveau tour du monde. Il s'en va faire le tour du monde, Claude Sicre, et vous savez combien il est passionné par la musique, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne. Et le fameux Roots Tour qui a littéralement enchanté tous les publics depuis plus de 15 ans. Le voilà donc, Nouveau tour du monde, Claude Sicre, c'est du 2 octobre au 5 octobre à l'Utopia Bordeaux-Rouge. Notez bien ça, notre ami Claude Sicre est là-bas, peuple et musique au cinéma, on en parlera au moment où il faudra. Et puis, évidemment pour moi, Polaris, du mercredi 8 au mardi 14 octobre, et puis Ciné Espagna. On peut se partager, on peut y aller, on peut aller partout.
On peut aller à tous les festivals.
On peut aller à tous les festivals et de temps en temps, on lit vos livres, Laurent. C'est tout.
C'est pas moi qui les écris, mais bon, c'est dommage.
Bon, les livres que vous nous conseillez.
Oui, voilà.
Allez, on a passé un bon moment.
Oui, je pense.
Merci messieurs.
Merci à vous.
C'était très sympa.
Bonne soirée, à mercredi.
Merci messieurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de N'oubliez pas l'ouvreuse. À 20h, c'est Nathalie Cardon. Et puis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Quand vous n'écoutez pas Radio Présence, vous courez au cinéma. Salut.
La prochaine fois, on ira au cinéma.
Onzième édition du festival Passion Baroque à Montauban et dans le Tarn-et-Garonne du 2 au 12 octobre.
De superbes concerts vous y attendent, donnés par des ensembles réputés tels que le Poème Harmonique, l'Orchestre.